De 1848 à 1852, de la Deuxième République au Second Empire. L'Europe entière souffre en 1848. La crise qui l'atteint ne va pas épargner la France qui vit sa Deuxième République. La Deuxième République en 1848, romantique et tragique. Un grand élan romantique, conduit par le poète Lamartine, rend au peuple l'espoir qu'il avait perdu. Sa condition va s'améliorer, il en est sûr. Mais ce genre d'espoir ne peut en général aller bien loin si le canon des fusils barre la route. Mauvaise récolte de pommes de terre, de blé, inondations catastrophiques, la Loire, le Rhône débordent. 50% des ouvriers du textile au chômage et tous les jours des usines qui ferment. Les travaux du chemin de fer s'arrêtent. Les riches eux-mêmes perdent le moral. Cette crise est non seulement française, mais européenne. L'hiver 1847-1848 est d'une telle rigueur que les ouvriers berlinois meurent en grand nombre. En Irlande, la famine fait 1 million de morts. En France, rien ne va s'améliorer. Le prix du pain ne cesse d'augmenter, les faillites se multiplient, le nombre de chômeurs dépasse 1 million, pour environ 35 millions d'habitants. Que faire ? Même s'il n'est guère possible d'agir sur les événements climatiques ou sur la conjoncture européenne, des mesures d'urgence peuvent être prises afin de soulager la misère du peuple. Mais le gouvernement de Guizot ne veut pas en entendre parler. Il est coupé des réalités par un système électoral qui approuve automatiquement tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense. L'opposition décide alors de lancer une grande campagne de banquet. L'idée peut paraître étrange, mais c'est le seul moyen de diffuser des idées de réforme dans une France tenue en laisse par le parti bourgeois qui surveille tout. Au cours de 70 banquets, est lancée l'idée que tout peut changer avec un peu de chance et d'audace. Guizot et le roi informés de la situation ne veulent rien entendre. Il est alors décidé d'organiser à Paris un grand banquet qui sera suivi d'une manifestation. La manifestation et le banquet sont interdits. Qu'importe, le jour prévu, le 22 février 1848, la foule se rassemble de la Madeleine au Palais Bourbon. Des incidents éclatent et font un mort. Cela n'empêche pas Adolphe Thiers d'aller dormir en disant à qui veut l'entendre que les régiments de dragons ont ramené le calme et que tout est rentré dans l'ordre. Pour lui, tout est fini. En réalité, tout commence le lendemain, le 23 février. Sous une pluie battante, les manifestations reprennent. On demande la démission de Guizot. On veut la réforme du code électoral et même le suffrage universel. Guizot est donc le jour même renvoyé. Vers 9h du soir, boulevard des Capucines, un coup de feu part. La troupe harcelée par des jets de pierres depuis le matin croit à un signal et ouvre le feu sur les manifestants. 52 d'entre eux sont fauchés par la mitraille. On charge leurs corps sur des charrettes qui sont promenées toute la nuit dans la capitale. Partout s'élève un cri « On égorge le peuple !» Le lendemain, le 24 février 1848, Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, le comte de Paris. Alors apparaît en pleine lumière celui qui est chéri dans le cœur de ces dames et dans l'esprit des hommes, le poète Alphonse de Lamartine. Depuis des années, il œuvre pour améliorer le sort des classes populaires. C'est lui qui va former le gouvernement provisoire. La foule rassemblée sur la place de l'Hôtel de Ville ne quitte pas les lieux. Elle campe sur place. Et le 25 février 1848 au matin, elle est là, qui réclame la proclamation de la République et le drapeau rouge. La République est proclamée, mais Lamartine, prudent, conserve le drapeau tricolore. Tout va très vite alors. La Chambre des députés est dissoute, celle des pairs est dispersée. Le principe du suffrage universel est adopté. Le droit au travail est proclamé, sur la proposition du théoricien socialiste Louis Blanc. L'esclavage dans les colonies est aboli. L'écrivain et ministre Victor Schœlcher fera appliquer cette décision. La liberté de la presse est rétablie. Celle de se réunir est de nouveau accordée, au grand bonheur de tous ceux qui créent et vont développer des clubs politiques. La peine de mort pour délit politique est abolie, l'emprisonnement pour dette est supprimé. L'enthousiasme est considérable. Lamartine orchestre ce vaste élan romantique où les bourgeois et les ouvriers, main dans la main, croient que le grand soir est arrivé. La belle entente est de courte durée. La chambre dissoute, de nouvelles élections doivent avoir lieu. Les révolutionnaires de Blanqui craignent qu'elles leur soient défavorables. En effet, le suffrage universel étant effectif, tous les Français vont voter. Or, la France est un pays encore rural et les paysans ont davantage le cœur au château que la tête en révolte. Blanqui et les siens n'obtiennent qu'un report de ces élections qui se déroulent le 25 avril et donnent une forte majorité aux républicains modérés et aux monarchistes. Les socialistes de Blanqui sont battus. Ils tentent alors un coup de force et de colère le 15 mai 1848. Des flots d'hommes déguenillés, selon l'expression de Victor Hugo, envahissent le palais Bourbon. Lamartine essaie de les ramener à la raison. On lui répond « Assez de guitare, ta lyre est cassée !» Mais l'affaire tourne court et les meneurs sont arrêtés. Blanqui, Raspail, Barbès et l'ouvrier Albert. Ils sont condamnés l'année suivante à la détention perpétuelle. Ce 15 mai, la peur du peuple et de ses débordements naît à l'Assemblée. Les événements qui surviennent ensuite sont guidés par le souci de garantir l'ordre. Créés sur une idée de Louis Blanc, les ateliers nationaux qui ont fonctionné 2 mois et donné du travail pour quelques jours à des milliers d'ouvriers au chômage, mais deviennent des foyers de révolte, sont supprimés le 21 juin 1848. C'est le désespoir dans le peuple. Le 23 juin, des centaines de barricades barrent les rues de la capitale. Le 24 juin, l'état de siège est proclamé. Le général Cavaignac est chargé de rétablir l'ordre. Le 25, 50 000 insurgés sont encerclés par les troupes de Cavaignac dans le faubourg Poissonnière, celui du temple de Saint-Jacques. L'archevêque de Paris, Monseigneur Affre, est envoyé vers les insurgés, une croix à la main pour les convaincre de se rendre. Il tombe une balle dans le cœur. Des généraux venus parlementer sont massacrés. Le lendemain, le 26 juin 1848, les troupes donnent l'assaut qui fait des milliers de morts parmi les révoltés et 900 chez les assaillants. Des horreurs sont commises par la troupe. Elles font dire à George Sand, qui apprend à Nohant les événements parisiens, « La province demeure tranquille. » J'ai honte aujourd'hui d'être française. Je ne crois plus aujourd'hui en une république qui commence par tuer ses prolétaires.